Art Sacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. Dismas et Gestas. Je ne sais si ces deux noms vous disent quelque chose, mais il est une tradition qui veut que ce soit les noms des deux larrons qui entouraient Jésus lors de la crucifixion. Dismas, le bon larron, et Gestas, le mauvais. Ce qui reste certain, c'est que Dismas est fêté le 25 mars par l'Église catholique, jour considéré jadis comme celui de la crucifixion, maintenant comme celui de l'incarnation de Jésus. Alors, chers auditeurs, l'œuvre que j'ai choisie pour vous est un tableau d'Andrea Mantegna du XVe siècle. Il vous faut taper Mantegna, M-A-N-T-E-G-N-A, crucifixion, et vous pouvez ajouter Louvre, et vous trouverez l'image. Saint Luc, au chapitre 23, versets 35 à 43, nous raconte ce magnifique dialogue de ces êtres souffrant atrocement et qui trouvent la force de s'écouter et de s'aimer intensément. Je cite « Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi !» Mais l'autre lui fit de vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu ? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Raymond Léopold Brugberger, moine de l'ordre des frères prêcheurs, les dominicains, était un prêtre et un père indomptable. Il mena une vie pour le moins tumultueuse et sulfureuse même, mais fut en tant que théologien un écrivain convaincu de sa foi. C'est pourquoi il me semble intéressant de partager avec vous ce qu'il notait dans son histoire de Jésus-Christ en parlant du bon larron. Je cite « C'est un contrebandier du paradis ». Lui, bien entendu, s'en moque. Il lui suffit d'être de Jésus-Christ, le compagnon de misère, son premier martyr, celui qui, le premier, reçut le baptême de sang et de désir. Ce brigand-là a gardé assez le sens de la justice pour s'indigner, non de son propre supplice, qu'il accepte, mais du supplice infligé à Jésus-Christ. Et le père Brugberger ajoute « Je trouve qu'il est exemplaire, il ne représente rien, uniquement le compagnonnage de hasard de cette crucifixion et puis cette profession de foi des misérables en leur Seigneur, la rédemption des péchés accordée à cette profession de foi et enfin la promesse du paradis faite par celui-là qui est le roi du paradis. » Fin de citation. Roi crucifié entre deux pauvres airs qui étaient la lie de la société. Alors je reviens sur la phrase du bon larron. Pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et un prêtre canadien, le père Maloney, a écrit dans ses nouvelles vincentiennes, je cite, « Une légende ravissante dans un des évangiles apocryphes raconte que lorsque la Sainte Famille s'enfuyait en Égypte, deux voleurs l'attaquèrent. Cependant, un s'arrêta immédiatement quand il vit les larmes jaillissant des yeux de Marie. C'étaient ces mêmes voleurs, maintenant pris en faisant leur trafic à Jérusalem, qui sont crucifiés avec Jésus. Ainsi va l'histoire. Celui qui est ému par les larmes de Marie était le bon larron à la droite de Jésus. » Fin de cette citation du père Maloney. Alors il est temps maintenant de nous approcher du Golgotha avec André Mantegne. J'espère que vous l'avez sous les yeux. Cette œuvre d'Andrea Mantegne est datée d'environ 1455. Elle se trouve au Louvre. Mantegne est né vers 1431 à Isola di Carturo et mort le 13 septembre 1506 à Mantoue. En plus d'être peintre, il fut graveur et évidemment c'est un peintre de la première Renaissance, c'est-à-dire la Renaissance italienne, qui a rompu définitivement avec le style gothique en plein milieu du XVe siècle. Et cette crucifixion du Louvre, Mantegna la présente sur un grand rocher plat taillé de grandes dalles. Les trois croix de bois sont face à nous, celle de Jésus au centre, celle des larrons de part et d'autre, légèrement tournée vers celle de Jésus. Tout y est. De droite à gauche, de dos le centurion, sans casque, gilet matelassé à la façon de Mantoue du XVe siècle, il est sur son cheval et il lève les yeux vers Jésus. Face à lui, un soldat sur un autre cheval tient une baguette et regarde un groupe de personnages à ses côtés. L'un, debout, au pied de la croix de Jésus, tient une pancarte, sans doute de la Légion romaine. Il parle à deux hommes en tenant avec eux la tunique rose de Jésus. À leurs pieds, trois soldats assis par terre la tirent au sort avec les dés jetés sur un bouclier. Ensuite, en allant vers la gauche, les cinq saintes femmes, debout et se lamentant, tandis que Jean, seul au pied de la croix du bon larron à gauche, joint ses mains en signe de douleur en regardant mourir Jésus. Et au premier plan, Mantegne a placé deux soldats montant la garde. On ne voit que leur tête et le haut de la lance pour donner de la profondeur à son œuvre. Derrière les croix, la perspective est magistrale. Mantegna était un perfectionniste et avait un souci maniaque du détail. Ici, il fait preuve de virtuosité dans la précision du trait des maisons de la ville et des personnages. N'oublions pas que Mantegna a été graveur, donc il avait ce souci du détail. Alors que le Golgotha est une colline en dehors des remparts de Jérusalem, du temps de Jésus, donc en réalité plus haut que la ville, le peintre a placé la cité de Jérusalem perchée sur une montagne sur la gauche. Une grande falaise rouge protège le chemin taillé dans le roc qui descend au lieu du supplice. Finalement, le lieu du crâne, traduction de Golgotha, se trouve en contrebas de la ville, comme si Mantegna avait voulu accentuer encore plus le rabaissement de ces trois hommes dans leur condition de rejetés de la société juive. À droite, un mur de rocher se trouve dans l'ombre, et c'est ainsi que le mauvais larron, sur notre droite, est peint de façon à suggérer la noirceur de son cœur. Sa peau est légèrement foncée, la barbe noire lui mange le visage, les cheveux sont hirsutes et les traits grossiers. Il détourne la tête de la croix de Jésus dans un refus total de sa miséricorde. Son pied droit est lié sur la croix, jambe tendue, tandis que la gauche est repliée vers le haut, le pied posé à plat sur le bois. Une douloureuse agitation s'est emparée de son corps. Ses coudes entourent le visage à la bouche ouverte, les mains liées derrière la croix. En face de lui, à la droite de Jésus, le bon larron, lui, est en pleine lumière. Son corps, légèrement doré, est tout droit. Les pieds liés au niveau des chevilles. Les mains attachées derrière le patibulum, coudes encadrant la tête, comme son compagnon. Par rapport à ce dernier, on peut penser qu'il est plus serein. Sa bouche est également ouverte, ses yeux fermés, ses côtes saillantes et son plexus montrant la difficulté à respirer dans une telle position. Une corde lâche relie ses pieds aux mains derrière la croix. On ressent l'effort qu'il doit faire pour parler à Jésus, mais il ne s'agite pas. Il est lucide et réconforté par les paroles du Christ. Il attend sa fin avec confiance. Au centre, Jésus a les deux pieds cloués ensemble l'un sur l'autre et penche la tête couronnée d'épines vers sa droite, vers le bon larron. Lui aussi a le plexus enfoncé dans un dernier effort de réconfort du jeune homme repenti. Ses mains clouées au centre de la paume, ce qui est une aberration clinique, sont écartées sous la douleur, mais aussi en signe d'accueil au paradis de celui qui a reconnu son péché. La carnation blanche de Jésus ajoute à l'impression d'innocence et à l'iniquité de son supplice. Debout, sur les dalles, sur la gauche, le groupe des cinq saintes femmes est éploré. Marie, robe rose sous une cape bleu nuit, semble défaillir, tête et bras abandonnés de douleur, retenue fermement à gauche par le bras droit de la sainte femme qui se trouve derrière elle, probablement Marie-Madeleine, car elle est habillée de rouge et de blanc. Et sur la droite, une autre sainte femme, une des sœurs de Marie, probablement, enveloppée d'un vêtement gris, retient elle aussi Marie, en pleurant, ravagée de chagrin. À l'arrière, mais solidaire des trois autres, l'autre sœur de Marie, visage levé vers le ciel et yeux fermés. Toutes les quatre sont auréolées. Une cinquième femme, drapée de bleu sur une robe jaune, accompagne les proches de Jésus, et elle n'est pas auréolée. Côté soldat, le trio des joueurs de dés, tirant au sort la tunique de Jésus comme un trophée, se soucie peu de ce qui se passe au-dessus de leur tête. L'un est assis, jambes allongées, et s'apprête à lancer les dés de sa main droite sur un bouclier rond aux couleurs écartelées de jaune et orange. À remarquer que le dessin forme deux croix, une jaune, une orange. Il a l'air très jeune et, comme un enfant, se réjouit d'avance, espérant gagner. À ses côtés, un autre soldat s'est accroupi, un genou en terre, et regarde avec curiosité les dés qui vont être jetés. Rien ne le distrait. Et à l'arrière des deux autres, à genoux sur les dalles, un troisième soldat, celui-là tête nue, alors que les deux autres sont casqués, baisse les yeux vers la main de son compagnon qui va lancer les dés. Il a l'air plus détaché, derrière sa barbe bien noire, le crâne chauve. Il est sans doute un peu plus âgé, et son expérience le fait réagir plus calmement, tout espoir contenu. Au pied de la croix, le symbole du lieu où nous sommes, un crâne, qui, selon la légende, ici encore, serait celui d'Adam. À gauche, dans le dos de Saint Jean, une grotte s'ouvre dans le rocher gris qui dévoile un ensemble de crânes et d'ossements. Dans quelques heures, le samedi, Jésus descendra aux enfers, comme il est dit dans notre credo, le « Je crois en Dieu », aux enfers et non en enfer. Il ira consoler les défunts, morts avant lui, et leur promettra la résurrection et la vie éternelle. Au fond, un ciel bleu, parsemé de nuages blancs moutonnants, n'est pas encore envahi par l'orage ni le tremblement de terre qui va accompagner, dans quelques instants, la mort du juste. Voilà, cette émission se termine. Merci à Imanol pour l'assistance technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre attention. Vous savez que vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur Radio Présence Cahors. Restez sur votre radio préférée. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Art Sacré. Au revoir.
Art Sacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.